Et moi, vous en êtes un.
J'en suis un?
Oh oui, et un bon.
Mais vous êtes...
Vous écoutez les taux noirs.
Vous écoutez les autres noirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'as fou. C'est pas même normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Je disais que j'ai la vague pression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule.
C'est... Mais quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on ouais. Quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup, là.
Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça, dit répétition.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission numéro 610 des entonnoirs. Bonjour à toute l'équipe présente.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Aujourd'hui nous avons Fred, nous avons Florent, nous avons Christopher et nous avons Rachid. Voilà.
Yeah.
Et au programme de l'émission. Évidemment il y aura de la musique puisque nous écouterons Asian Dub Foundation, Mélodie Gardot.
Whisky Baba,
c'est ça. Et on va démarrer l'émission avec Pierre Perret, mais on a aussi des chroniques. Hein. On va vous parler d'actu aujourd'hui. On va évidemment parler de Covid, de vacances, de foot, des champions en l'occurrence. Un petit peu de voyage et puis on s'amusera aussi en fin d'émission. Mais Fred, tu voulais aujourd'hui nous passer une musique de Pierre Perret.
Oui, ça représente bien l'immigration, comme aujourd'hui on est en plein dedans. Et cette chanson avait tapé sur certaines radios dans les années 70. Interdit par le ministère de l'Intérieur. Donc je suis bien content de pouvoir la passer aujourd'hui sans qu'on ait de contradiction. Ça s'appelle le Lily de Pierre Perret.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant, on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé le cajot, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les chauffeurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
entonnoirs, les entonnoirs.
Alors là, je suis venu vous parler quelques chroniques. Peut-être que Ben voulait nous présenter.
Oui, on va tout lancer le jingle.
Le jingle actuel. Ouais.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
Alors aujourd'hui, Fred, tu vas nous parler de plusieurs sujets en rafale, hein, comme
en
ça.
En rafale, oui, des petites annonces rafales qui vont intéresser certainement pas mal de gens en France. La première sera la rentrée qui sera pour les étudiants d'une augmentation de 3,21%. Il devra débourser en début d'année à peu près 2361 euros. Alors sachant que le CROUS ne construit pas de logement, ni de logement, ni la CAF, ni personne ne construit de logements sociaux, ni de logements pour les étudiants. Alors que le livret A ramène 0,75% à celui qui cotise au livret A, mais rapporte 4,5% par mois à l'État. Alors il serait temps que, avec les bénéfices, comme il était prévu dans le passé, de fabriquer des logements sociaux.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce dont tu parles, c'est le budget global d'un étudiant à l'année, hein, qui est en augmentation. Et ce que j'entendais ce matin, c'est que dans ce budget-là, ce qui provoque aussi une part d'augmentation, ce sont les masques, parce qu'on va obliger les étudiants à porter des masques à la fac et dans les écoles. Et ça représente à peu près un budget de 30 euros par mois, selon l'info que j'ai réussi à entendre ce matin sur France Info. Donc c'est pas négligeable non plus. Donc des associations d'étudiants demandent à l'État de fournir gratuitement les masques dans les universités pour les étudiants. Vous en pensez quoi ?
Voilà, c'est juste.
Je pense que ce serait normal. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'argent si on veut qu'ils... Si on veut lutter contre le virus, ben ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir des masques, on peut leur acheter. Et ce qui est important, c'est que on tombe pas malade. Hein. Après, les étudiants, ben t'as pas d'argent. Hein. Moi, j'étais à la fac, j'étais en terminale, j'étais à la fac. Je peux revenir sur ton truc de logement. Je vais finir, Florent, après. Ton truc de logement. Moi, j'étais à la fac, mais chez moi, on était 5 enfants, c'était le bordel, quoi. J'avais 2 frères dans ma chambre, je pouvais pas faire des études dans des conditions pareilles. Dans la logique, il aurait fallu que je me prenne une chambre étudiant et tout ça.
Il n'y a pas de place pour tout le monde.
Mais c'est ce que j'ai entendu sur une radio concurrente, France Inter, qui est notre première concurrente. j'ai entendu, en fait, déjà à la base, ils ont pas assez de logements. Et en plus, là, c'est comme cette bins avec le Covid, ils ont pas pu donner de réponse aux gens. Donc, en fait, les gens, ils savent même pas s'ils vont en avoir un ou ne pas en avoir. Ce matin, je discutais avec toi, Fred, et puis, on parlait d'un truc que j'avais vu à la télé sur la Hollande. Et en fait, comme ils ont beaucoup de berges, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des conteneurs. Ils ont
les uns
sur les autres. Après, ils ont ouvert. Hein. Ils ont été avec une meuleuse, ils ont mis une fenêtre, ils ont mis des escaliers. Et franchement, ils étaient. C'est vraiment bien.
Hein. Je sais pas si il suffit de les isoler et de mettre des fenêtres.
Moi, je les ai vus, les chambres d'étudiants de la cité scientifique.
C'est clair. Bah, je peux dire qu'un conteneur, c'est mieux qu'une chambre à la cité scientifique. Il n'y a pas de souci. Hein.
Franchement. Faut que l'État il se bouge et voilà.
Ouais, faut qu'il se bouge, exactement.
On peut pas dire les jeunes ils foutent la merde et ceux qui veulent étudier ils ont les moyens d'avoir.
Faut qu'on récupère, il faut qu'on récupère liberté, égalité, fraternité. Ça on est en train de le perdre là petit à petit au fur et à mesure des années.
Ouais, et puis c'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent. Donc s'il y a des gens à aider, c'est eux quoi.
Exactement, parce que les parents.
Il faut qu'ils brûlent la fac, comme dans les banlieues, pour.
Pour
qu'on répare leur boîte aux lettres, faut brûler le hall, donc. Ou il faut qu'ils brûlent la fac pour avoir des containers. Voilà, ça doit pas être si cher d'avoir trouvé un endroit et de la ville et de mettre des containers, de les aménager.
C'est clair.
Sachant qu'après, il y a une rentrée d'argent aussi, parce que.
Ils payent un loyer.
Ok, sujet suivant.
Alors, le Japon, troisième puissance économique mondiale, a perdu 7,8% du PIB entre avril et juin. C'est encore, ils s'en sont assez bien, c'est beaucoup, mais ils sont assez bien tirés par rapport aux Français et aux Américains.
Ouais, mais c'est tout un symbole. De dire que le Japon a perdu autant, c'est quand même assez significatif. Et puis bon, après, on verra ce que ça va donner sur l'année. Hein, les baisses de croissance de tous les pays à l'année, c'est en décembre qu'on pourra faire un constat. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vrai que le constat, il est positif pour personne, économiquement parlant.
Voilà.
Donc, c'est histoire de répondre à tous ceux qui disent « Oui, le Covid, c'est un complot des États. » Pour bah, moi, je peux vous dire qu'avec tout l'argent qu'ils perdent, les États, là, c'est certainement pas un complot de leur part.
Enfin, voilà. Enfin, moi, je suis seul à la CIA, mais enfin, je préfère garder mes nouvelles pour plus tard, on verra.
OK. Sujet suivant.
Alors, il y a une nouvelle vague de contamination au Covid en France. Alors, certainement que fin août, début septembre, l'État va adopter une loi comme quoi le masque sera obligatoire dans toutes les entreprises, ainsi que le mètre de distanciation, c'est-à-dire dans les conseils... dans les conseils d'administration, dans les open space, dans pas mal de domaines. Oui, Christopher.
Alors, le port du masque, c'est très, mais le mètre de distanciation, ça va être très compliqué à mettre en place parce que on va pas agrandir les murs. Donc, je vois pas comment ils peuvent faire un mètre de distanciation dans certaines entreprises où tous les gens sont un peu les uns sur les autres. Concrètement.
J'ai tiré cette information de l'AFP, c'est le gouvernement qui va voter ça, alors ça va passer à l'hémicycle, après au Sénat. Donc
mais le gouvernement va le faire passer. Mais après, le gouvernement, il y a toujours un décalage entre ce que le gouvernement décide et la réalité sur le terrain.
La mise en application, ça va être autre chose.
Comme au départ, quand ils avaient dit tous les enfants vont reprendre l'école et il y aura de la distanciation sociale. Ben non. D'ailleurs, très vite, ils ont fait sauter des sensations sociales à l'école.
Non, mais de toute façon, je pense qu'à un moment, il serait temps d'envoyer des signaux fermes quant aux mesures sanitaires. Je veux dire, là, c'est le yo-yo. D'une semaine sur l'autre, on te donne l'info, on te la contredit. Déjà, dès le déconfinement, il aurait fallu dire masque obligatoire dans tous les lieux publics, partout, tout le temps. Les magasins, tous les ciné, les centres commerciaux, tout ce que tu veux, les administrations, masque obligatoire. C'était ça, les signaux à envoyer. Là, on va en parler avec Rachid. Hein. Rachid est parti en vacances.
Ouais. Un petit mot avant sur ce que tu disais. J'ai l'impression qu'en fait, ça continue pareil dans l'organisation. C'est toujours le bordel, quoi. Par exemple, hier, sur la 2, il y a le journal de TF1. Il parlait des tests. Il disait qu'on était en puissance. Et il montrait les queues devant les labos pas possibles à Paris.
Et à Marseille.
Et il y a le médecin qui était sur le plateau. Il dit, le problème, c'est bien de faire de loi, de dire qu'il faut se faire tester. Mais dans l'interview, on voyait des gens qui revenaient de vacances. Donc je préfère me faire tester pour être plus sûr. C'est très bien. Mais dans la queue, tu voyais aussi des gens qui avaient 65 ans, qui avaient 70 ans, qui venaient de se faire tester. Je pense qu'ils doivent aussi prioriser. Ils font des lois, c'est comme il dit avec les 1 mètre. Mais je pense qu'ils doivent réfléchir un peu plus et puis prioriser les gens à risque, dire toi tu dois te faire tester, toi tu dois pas te faire tester. Voilà, s'il y a assez pour tester tout le monde, on teste tout le monde. Mais si on teste tout le monde, on convoque tout le monde.
Sinon, il faut des passeports russes. Là-bas, ils ont soi-disant découvert le vaccin.
Un
Spoutnik.
Peu dans le bordel, en fait.
Qui ça?
Alors, le souci par rapport aux tests, c'est qu'ils disent, oui, on fait à peu près 400 tests par jour. On peut en faire beaucoup plus. On peut monter à 800 000.
Par semaine.
Par semaine,
C'est
par 600 000 par semaine, exactement.
Ouais. Entre 600 et 800, ça dépend des moments qui parlent au niveau du gouvernement. Sauf qu'ils n'ont pas augmenté le nombre de personnes pour faire le test. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des grosses files d'attente et que des fois, quand on appelle pour se faire tester, on appelle le genre du jeudi, on nous dit « j'ai place avant lundi », donc et pendant 4 jours. Donc on est sans savoir si on est positif ou pas. Donc ça, c'est
bien. Il faut des laboratoires, il faut des machines.
Voilà. Et... c'est bien dire qu'on a des tests, mais après il faut des gens pour tester. Et à chaque fois, le gouvernement, c'est ça. C'est... Non, non, mais on a le matériel, c'est bien. Mais... il ne fait pas que du matériel, le test ne se fait pas tout seul.
Rachid, tu voulais nous parler de ton voyage.
Ouais. Donc je suis parti en vacances, j'ai passé 15 jours en Catalogne, à Pals, sur la Costa Brava. Donc pour vous dire que là-bas, ils respectent les règles de distanciation, de tous les magasins, tous les campings, tout le personnel est avec des masques. Et puis dans la vie de tous les jours, quand vous croisez des gens dans la rue, vous n'allez pas croiser quelqu'un sans masque. Il vous voit arriver, il met son masque, bien sûr. Ils l'ont pas tout le temps. Hein. C'est comme moi, je l'avais pas tout le temps. Quand il n'y a personne et que je suis juste avec ma femme sur le trottoir, qu'il n'y a personne, je ne mettais pas forcément. C'était pas encore obligatoire, hein, début. Je ne mettais pas forcément. Mais dès que je croisais quelqu'un, je mettais mon masque. Il y avait ce respect de partout qui faisait que je n'avais pas pris trop de risques. D'ailleurs, ma famille s'est fait tester et puis on n'a rien après 15 jours en Espagne. Voilà, j'écoutais la radio, donc j'avais peur qu'ils fermaient les frontières, la radio française. Et arrivé en France, là, c'était le bordel intégral. Dans le sud, je vais parler de là où j'étais. Bon, déjà sur la route, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup moins de gens avec des masques parce que je suis revenu par la route d'école, donc j'ai fait tous les petits villages et tout ça dans la montagne. Donc j'ai remarqué qu'ils faisaient moins attention. Mais arrivé à Osgore, dans le camping, le personnel n'avait pas de masque. Dans les magasins, ça arrivait qu'ils n'avaient pas de masque. Un jour, parce qu'on faisait plutôt des trucs de randonnée, des trucs où il n'y avait pas trop de monde. Un jour, on a dit qu'on allait se manger une glace à Souston, au centre-ville, les centres-villes de vacances, là. Une queue de 20 mètres avec des gens dedans de 65 ans, 70 ans, mélangés avec des enfants, sans aucun masque. Certes, celle qui était au comptoir, elle avait un plexiglas. Mais dans la queue, c'était la braderie Lille, quoi. Pour que vous voyez un petit peu. D'ailleurs, à chaque endroit où j'avais comme j'étais habitué en Essonne, j'avais une sorte de frein qui me disait « Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, je vais finir en disant, je pense que depuis le début, en France, on a un petit peu un sentiment de supériorité.
Carrément.
Et on pense, même moi, je l'ai eu un petit peu. Alors, ça a commencé en Italie, le Covid. Je me suis dit, oui, mais c'est pas le même système. Je l'ai pensé, je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Oui, mais alors les hôpitaux italiens, ils sont pas terribles. Les Espagnols, pareil. Les Anglais, ils crânent, mais ils sont pas mieux que les Français. Mais quand tu regardes, c'est pareil partout. Hein. Environ 30 000 morts en Espagne, s'ils arrondissent. Environ 30 000 morts en Italie. Environ 30 000 morts en Angleterre. Ah, donc environ 30 000 morts en France. Donc faut pas qu'on se sente supérieur. Parce que cette supériorité, je suis sûr que... Je me demande même si qu'avec la réaction plus sévère de l'État espagnol, qui ferme carrément des endroits, des villes, par exemple Roubaix, il y a des cas, on bloque Roubaix, il n'y a personne qui sort de Roubaix. Je me demande même si en France, après ce que j'ai vu dans le Sud, on n'a pas plus de gens contaminés qu'en Espagne. Donc je me suis posé moi la question après l'Espagne, et pourquoi dans le Sud de la France... J'avais cette impression, après c'est une impression personnelle, hein. C'est moi qui ai voyagé, cette impression que c'était pas du tout respecté. Parce que même par rapport au Nord, je trouve qu'on est beaucoup plus rigoureux dans le Nord. Hein. Franchement, beaucoup plus rigoureux dans le Nord. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été touchés par la première vague et que ils ont l'impression que c'est pas grand-chose et que c'est qu'une petite grippe encore, je ne sais pas.
Pas forcément, ouais. Parce qu'en Bretagne, où ils ont été très peu touchés, ils respectent bien le masque. Tous les magasins, il y avait le masque, il y avait du gel hydroalcoolique à l'entrée. Le marché, c'était avec un masque. Il y avait la police qui était présente pour d'ailleurs bien vérifier que tout le monde portait bien son masque. Donc, oui, non. Enfin, par contre, en Bretagne, touché par la première vague. Et les règles étaient très bien respectées.
Rapidement, Florent.
Oui, moi, il faut voir pour y croire. Parce que moi, quand je prends les transports en commun, je me rends compte que la majorité des gens portent un masque. Et qu'il y a des 2-3 par-ci, 2-3 par-là qui, au contraire, ne le portent pas. Et moi, ça m'ennuie un petit peu. Et je pense qu'il n'y a pas assez de présence policière dans les transports ou des gens de la sécurité dans les transports. Enfin, je sais pas, on en est loin, quoi, de... Que ça disparaisse, quoi, mais...
Il devrait y avoir un filtrage à l'entrée des transports, ouais. Point barre, c'est tout. T'as ton masque, tu rentres, t'as pas ton masque, tu rentres pas.
Enfin... Oui, mais le problème, c'est que oui, les conducteurs ont peur. Et c'est, à mon sens, c'est pour ça qu'il faudrait augmenter le nombre.
Ça devrait pas exister, ouais. Mais regarde, comme tu dis, toi, tu prends presque tous les jours le bus.
Ouais, souvent, ouais.
La grande majorité, elle respecte, quoi. C'est ouais, 2-3. Et dans le Sud, c'est rien. C'est vraiment pratiquement personne, quoi.
Voilà, on pourrait en parler des heures. Hein. Il y a peut-être encore un sujet, Fred, ouais.
Oui, le dernier petit sujet, ça concerne le vote présidentiel aux États-Unis au mois de novembre. Alors, aux États-Unis, il va peut-être être fait en partie par correspondance, le vote. Alors, Trump n'est pas trop d'accord parce qu'il croit qu'il y aura des fraudes. En fait, c'est parce qu'il sait très bien que c'est plus il y aura d'électorat, plus il y aura de participation, plus les démocrates risquent d'être élus. Et c'est pour ça que Trump, il fait son pataquès en ce moment, pour qu'il n'y ait pas de vote par correspondance ni par procuration.
Alors, est-ce que vote par correspondance, tu entends par là des votes informatiques ?
Informatiques et par lettre.
Il y a quand même un gros risque avec les votes informatiques. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas un seul système de vote informatique qui soit 100% sécurisé contre le piratage et donc contre la fraude. C'est un peu ça aussi le problème. Alors, si le vote par correspondance là-bas pour les prochaines présidentielles se fait administrativement sur papier, tant mieux. Mais je pense qu'il ne faudra jamais faire confiance à un système de vote informatique par correspondance parce que c'est la porte ouverte à tous les hackers.
Ouais. En fait, ça serait des Iraniens qui voteraient à leur place.
Ou des Russes.
Russes, Iran.
Voilà. Ou les Chinois.
D'ailleurs, la loi, enfin, le vote des Américains était déjoué par l'ONU, qui donne l'autorisation à l'Iran de s'armer, de pouvoir acheter des armes.
Ce sera le cas d'une prochaine brève.
Tout à fait.
Dans une prochaine émission. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, ça fait quand même un peu plus de 20 minutes qu'on parle. Donc, le sujet d'actu de Florent, on va en parler juste après une pause musicale, histoire de respirer un peu, parce que même nous, là, sous nos masques, il commence à faire très chaud. On va écouter un morceau que Christopher, que Christopher veut nous faire écouter.
Donc, en fait, c'est un groupe qui s'appelle Whisky Baba, que j'avais découvert il y a quelques années maintenant, lors d'un. Des mardis de PS4, quand j'étais en vacances en Bretagne. Alors c'est un groupe complètement déjanté, avec des musiques très différentes, des musiques sérieuses, des musiques plutôt délirantes. La musique que je vais vous faire écouter s'appelle Legalize. Et en fait, c'est une chanson où il parle de la légalisation de l'héroïne, mais avec beaucoup d'ironie. Je vais découvrir. Whisky Baba, Legalize.
Quand j'étais petit, c'était une tradition comme dans certaines familles. Le pâté en crouton, mon grand-père, ma grand-mère me le répétait souvent. Et grâce à ça, je n'ai pas grandi dedans.
Hey, excuse-moi, il y aurait moyen de...
Non.
Vas-y, t'es pas clair.
Alors aujourd'hui, fais passer le mot autour de toi.
Mon petit, le hashish n'est pas bon pour toi. Les drogues douces souvent mènent à d'autres drogues douces, comme les chauffeurs de tricycles finissent par conduire des pousses.
Je te le dis, mon ami, ne te laisse intimider par cette mode. Ce phénomène de société, le B de la ganja, le shit, la beuh, tu dois refuser. Comme disait mon grand-père, pourquoi bédave
quand tu peux te piquer.
Legalize, héroïne. Legalize, héroïne. Legalize, héroïne. Legalize. Rejoignez notre cause, nous revendiquons notre droit à l'overdose. Y'en a bien qui dans leur café mettent du sucre au dieu. Ne comprends pas pourquoi à l'héroïne on s'oppose. Il me semblerait judicieux dès la maternelle de l'intégrer au cours de travaux manuels. Et bien entendu d'insérer dans l'abécédaire l'héroïne en main entre la girafe et la bépière. Legalize,
c'est tourné,
héroïne,
la cuillère.
Legalize,
pété,
héroïne,
la sucrière.
Legalize, héroïne. Legalize, héroïne.
Souvent les bienfaits de l'héroïne pour notre société. Dans bien des cas, sa consommation s'avère être la solution. On pourrait en avoir dans les marchés bio.
Afin de résorber la crise manufacturière, l'héroïne relancerait la production de cuillères. Pour que les gosses retournent en cours, lieu de se piquer dans les cités, il suffirait de distribuer l'héroïne direct dans les lycées. Contre la sérodiscrimination, passons de bras en bras. Sur un contaminé, on aurait tous le sida. Pour les ados qui sont trop maigres parce qu'elles sont anorexiques, avec l'héroïne, elles seraient mecs, mais parce qu'elles se piquent. Pour régler le problème du dopage dans le sport, si tout le monde se piquait,
plus personne ne ferait de sport.
Enfin, si tu t'inquiètes pour le trou de la sécu, il suffit de te fixer. Tu n'y penseras plus. Legalize,
CBD,
héroïne,
le briquet.
Legalize,
fais tourner,
héroïne,
les MST.
Legalize, héroïne. Legalize, héroïne.
Je me pique. Le midi, je me pique. Au goûter, je me pique. Et le soir, je me pique. J'aime pas les serpents, surtout les aspics. Je joue en ligne à la dame de pique. Et à Auteuil, aux courses hippiques. Mon acteur préféré, c'est Brad Pitt. Je donne de l'héroïne à mes abeilles.
Ah, c'est marrant ce que tu me dis. Hier, je regardais un reportage sur France 5.
Le bonheur, c'est utopique. Un chèque parle, c'est atypique. Les Caraïbes, c'est les tropiques. Les sacs de l'ONE, c'est nul. Dans mes toilettes, je mets du harpic. Les céréales, c'est chocapic.
Legalize, pour les enfants,
héroïne.
Des enfants,
légalize,
c'est pour le bien,
héroïne.
Des Colombiens,
légalize,
et les enfants,
héroïne.
Pour les Birmans,
légalize,
les Birmans,
héroïne.
Les Mexicains.
Maintenant qu'arrive la fin de la chanson, on tenait à mettre les poings sur les sillons. Je vous assure que ce n'était
revenir sur ce qui a été dit un peu avant dans la chanson, parce qu'on sait qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Donc, on ne veut surtout pas de problème, je veux dire, avec la SPA.
De l'héroïne aux abeilles, nous, on n'en donne pas. Légalise.
Pour ton grand-père,
héroïne.
Pour ta grand-mère,
légalise.
Pour ton cousin,
héroïne.
Pas pour ton chien,
légalise.
En sachet,
héroïne.
En dosette,
légalise.
En cachet,
héroïne.
Pas en roquette,
légalise.
Dans la cour,
héroïne.
À la Sinpi,
légalise.
Mais pas pour,
héroïne.
Ton nari,
légalise.
Mes endants,
héroïne.
Ton verre de rhum,
légalise.
Mes dents,
héroïne.
Ton aquarium,
légalise.
Mes endants,
héroïne.
Ton verre de rhum,
légalise.
Mes dents,
héroïne.
Ton aquarium,
légalise.
Mes endants,
héroïne.
Ton verre de rhum,
légalise.
Mes dents,
héroïne.
Ton aquarium,
légalise.
Legalize à l'instant, c'était un choix musical de Christopher, très drôle, un groupe qui s'appelle Whisky Baba, qui est pas connu du tout, hein, parce que là le morceau que vous écoutez, il a à peine 500 vues sur YouTube.
Et ils ont plein d'autres titres vraiment très très bien que je conseille, comme Manon, et il y en a une aussi où c'est un peu sur le thème de Roméo et Juliette, mais avec des syndicats et tout ça, syndicalistes.
Merci Christopher pour cette pause musicale. On revient à l'actu, cette fois Actu des Hauts-de-France avec Florent.
Oui, après cette quelques nouvelles un peu alarmantes au sujet du Covid. Il paraît un truc un petit peu alarmant, mais quand même moins. Hein. En fait, ça traite du... Sachez que les Hauts-de-France ont été chassés du podium des régions les plus peuplées, dans l'Hexagone. Sachez que c'est plus une surprise pour vous, c'est la Voie du Nord qui... C'est mes sources, c'est la Voie du Nord. Hein. Alors, pour la première fois depuis le nouveau découpage de 2016, hein, par région, les 16 régions en France métropolitaine, donc les Hauts-de-France arrivent quatrième, s'est fait éjecter du podium des régions les plus peuplées, en sachant que l'Île-de-France, la région parisienne, arrive en tête avec 12 millions d'habitants, va suivre la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 8 millions d'habitants quand même, et la région Aquitaine avec 6 millions. Alors, pour être plus précis et plus clair avec mes chiffres, le Hauts-de-France, c'est 5 962 700 habitants. Malgré le fait qu'il s'est fait chasser du podium, le nord de la France est le département le plus peuplé de tout l'Hexagone, avec pas moins de 2 588 988 habitants. D'après les chiffres de l'INSEE, qui datent du début janvier en fait, de cette année, et malgré tout, bien que le nord soit très peuplé, on a perdu quand même pas moins de 5468 habitants en un an. Enfin, d'après les chiffres de 2019, ouais. Oui, Rachid.
Je pense que c'est peut-être à cause du redécoupage et, ouais, et de la Somme. Parce que comme tu dis, le Nord, il est très peu peuplé. Et comme ils ont agrandi la région, peut-être de mettre la Somme où il y a moins de monde.
Sachant qu'accessoirement, nous enregistrons à Roubaix, que Roubaix est la ville la plus peuplée aussi, la plus jeune et la plus pauvre plutôt, plus pauvre.
Ouais. La plus pauvre.
Bon, ça, c'est un gros autre chose. Ouais. Par rapport aux naissances, les chiffres ont dégringolé chez nous en Hauts-de-France, parce que en 2014, on est passé de 80 000 naissances à 67 seulement. En 2019, donc, ça a décliné de 16%. Donc, c'est un petit peu plus alarmant, je dirais. Le chiffre de l'INSEE pour ce qui est des enfants par femme, dans l'Hauts-de-France, on compte 1,87 enfants par femme, contre 1,84 seulement pour la moyenne française, en sachant qu'entre 2000 et 2015, c'était environ 2 enfants par femme. Hein. Donc, ça a beaucoup diminué aussi. Pour la baisse des naissances dans les Hauts-de-France, dans la région, on a perdu 60 000 femmes âgées de 20 à 40 ans, ce qui est un âge fécond pour les enfants. Mais en revanche, dans les Hauts-de-France, c'est les femmes qui sont les plus jeunes de tout l'Hexagone, puisque pour une moyenne, c'est 29,8 ans, hein, pour une femme en France. En 2019, on a comptabilisé en tout 60 368 bébés en Hauts-de-France, mais malheureusement, c'est 545 de moins qu'en 2018. Donc c'est un peu reculé. Alors de plus, pendant quand le nombre de naissances chute, et ça coïncide avec l'augmentation des décès, mais dans l'Hauts-de-France, c'est plus lent qu'ailleurs, puisque chez nous, c'est 6,3% de décès en un an, de plus donc, et 9,5% Donc, sur la moyenne française, donc c'est beaucoup. C'est 3% de plus, donc c'est quand même beaucoup. Au total, 55 000, dans les Hauts-de-France, donc, il y a 55 760 habitants qui sont décédés donc l'année dernière, en 2019. Et en bref, un adulte sur trois quitte la région des Hauts-de-France et sont âgés entre 25 et 39 ans. Voilà, merci. Un mot, Ben, oui.
Non, rien, merci à toi. C'est intéressant d'observer tous ces flux de vivants et de morts dans notre région.
Et mon vivant, aussi, comme dirait François Valéry, vaut mieux.
On va passer à tout à fait autre chose avec la chronique foot jingle. Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, souvenez-vous, juste avant notre break estival, nous avions fait petit pronostic sur quel club se retrouverait en quart de finale et demi-finale de Ligue des Champions. On va pas vous rediffuser les bandes pour la simple et bonne raison que tous mes pronostics sont faux, donc j'ai pas envie de me taper la honte à la radio. Mais il s'est passé des choses quand même assez extraordinaires, hein, si vous suivez le foot. Déjà, pour moi, Lyon n'était pas censé aller en quart de finale. Or, ils ont battu et la Juve et Manchester City. Chose assez incroyable. Le PSG, sans Verratti, ni Di Maria, ni Meunier, ni Mbappé, a finalement réussi à battre l'Atalanta, qui était le club qui marquait le plus de buts en Europe pendant un certain temps.
Ouais.
Donc voilà, là on se retrouve avec des demi-finales complètement hallucinantes. Bayern, ouais, c'est ça. Et deux clubs français contre deux clubs allemands en demi-finale, ça n'est jamais arrivé.
Non, depuis 2007, c'est la première fois où il n'y a pas un club espagnol en demi-finale.
Et il y a très peu de temps, il y avait quatre clubs anglais en demi-finale. Quatre clubs.
Tu me sortais une stat intéressante aussi sur Messi et Ronaldo.
Et en fait, depuis 2005, il n'y avait pas eu une seule demi-finale de Ligue des Champions où il n'y avait pas ou Messi ou Ronaldo. Là, c'est la première depuis 2005.
Alors, en même temps, en rantaine, je disais que le Bayern, bon, ils sont toujours en compétition. Bon, je voulais dire qu'en fait, le Bayern, personne ne sait pourquoi ils font des scores aussi larges, aussi... c'est respect, quoi, mais pas de s'expliquer, en fait, mais...
Ils ont le niveau de la Ligue des Champions.
Ouais, non, mais Thomas Müller met un doublé...
La discipline allemande.
Moi, je pense que c'est surtout que c'est les autres clubs qui sont plus au niveau. Le Barça, on savait depuis quelques mois...
Mais c'était pas...
Attends, j'étais en train de parler, Florent. Le Barça, oui, en effet, ils ont perdu le titre de Liga sur les dernières journées. Le Real Madrid, ils sont champions d'Espagne, mais on savait qu'ils n'étaient pas très très solides non plus. La Juve, on savait qu'ils n'étaient pas très solides non plus. Liverpool, ça a été quand même une grosse surprise. Ouais, je pense que c'est surtout que le Bayern est un club qui a su rester au niveau physiquement, ce qui n'est pas le cas des autres clubs, quoi.
Et puis moi, je les ai vus, le Bayern, ils sont impressionnants, hein. C'est mon avis perso, hein. J'aimerais bien qu'il y ait une finale française, mais je pense que les Lyonnais, ils vont finir par exploser. C'est pas Manchester City. Ils vont se prendre une tête et après, la motivation, elle diminue et puis après, tu prends une série de buts. Je pense que les Allemands, vu leur forme physique, hein, c'est surtout physiquement, ils m'ont tous impressionné. Je pense qu'ils ont bien bossé dans le post-Covid parce qu'il y a aussi une histoire d'être sérieux. On peut voir aussi la fraîcheur des clubs français qui n'ont pas joué et qui ont pu se préparer comme Lyon juste pour un match comme ça. Et la nouvelle formule qui... Parce que deux clubs français, c'est quand même extraordinaire, sachant que les meilleurs joueurs français partent de France pour aller dans les clubs comme Manchester City.
Soyons honnêtes, s'il n'y avait pas eu le Covid, on n'aurait jamais eu Lyon et Paris en demi-finale.
Mais si.
Ça aurait fini 2-1 contre City. Mais au match retour, si tu regagnais ne serait-ce que 1-0, un coup franc de De Bruyne, par exemple,
c'est ça.
Et Lyon était éliminé sur 2 fois 45 minutes. Si tu tiens la première mi-temps, en face, ils ont beau être aussi forts que ça, ça devient un peu la panique, ils perdent un peu leur football. Tout le monde commence à dribbler, comme Neymar, quand on l'a vu dans le championnat de France, quand ils n'arrivent pas contre une équipe et qu'ils se mettent tous à dribbler, Mbappé de marquer, Neymar, et ils déjouent un petit peu.
C'est ça, et tu peux déstabiliser une équipe psychologiquement, un match chez toi à domicile.
C'est fort psychologique, tu marques dès le début, déjà leurs plans, ils sont perturbés. Ils se mettent à attaquer, ils s'en prennent un deuxième, et ils savent quoi.
Je veux dire que le Barça et le Real, ils reprennent même, ils recommencent. Ils sont, c'est une équipe vieillissante puisqu'ils ont tous trentenaires. Hein. Tandis que la force de Lyon, c'est comme ils ont tous la vingtaine. Aouar, il est jeune. Dembélé, il est jeune. Après, ça, ouais. fait, ça s'est fait. C'est un atout, quoi. C'est une force, j'ai envie de dire.
Ouais, non, mais peut-être qu'un joueur de 20 ans, il non, peut, sont... il ouais. peut reprendre plus facilement. Moi, je me rappelle quand je jouais, que j'étais jeune. On me disait jouer, j'avais pas besoin de m'échauffer. Arrive à 30 ans, si je m'échauffais pas, je me blessais. Ouais. Donc peut-être qu'avec le gros arrêt qu'il y a eu, le fait d'une équipe jeune, ils peuvent être plus vite au niveau que ces 32 ans.
Et... Puis c'est aussi parce que justement les jeunes joueurs de Lyon et de certainement de Paris sont plus en accessi que les autres. Quand on joue déjà au Bayern ou à Manchester City ou au Chelsea, c'est déjà comme une fin de carrière. On finit sa carrière là-bas ou presque. Donc ils sont au summum, donc ils sont moins motivés, je pense. Et comme ils ont la grosse paye et tout ça, ils n'ont pas soucié d'un avenir, le moins de soucier d'un avenir dans une plus grosse équipe encore, avec une plus grosse paye encore, qui sont déjà au summum que Lyon. Ils veulent prouver que justement les jeunes de Lyon, ils veulent prouver qu'ils sont capables d'aller dans un grand club. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer.
Par exemple, Messi et Ronaldo, ils ont tout gagné, ils ont 30 ans, ils ont tout rien à prouver, quoi. Donc ils deviennent suffisants sur le terrain et ils perdent, voilà.
Ouais, mais vu leur caractère, je pense qu'il y a personne qui veut plus gagner qu'eux. Hein.
Et puis en plus, l'année dernière, ils avaient déjà tout gagné.
Non, mais c'est leur équipe.
En fait, vos arguments sont plutôt bons, mais si on prend l'exemple du Bayern de Munich, qui a déjà gagné 5 fois la Ligue des Champions, avec des joueurs qui sont expérimentés, comme Lewandowski, Coutinho, il y a quand même... Pourtant, c'est l'équipe la plus en forme du moment. Donc, ça peut être en partie vrai, ça peut s'expliquer en partie par la jeunesse, mais pas que, je pense. Bref, on termine la chronique fou sur quoi ? Sur des petits pronostics sur les matchs ouais. là, de demain et
le lendemain ? Mon favori, c'est le Bayern. Hein. C'est l'argent. Le Bayern-PSG, but le Bayern. Non.
Bayern-PSG en finale.
Lauréat.
Ouais. Moi, je vais parier sur un petit...
Bayern-Leipzig.
Bayern-Leipzig en finale, allez.
Voilà. 3-1 pour le Bayern, contre le PSG.
Mais c'est juste parce que je déteste le PSG.
Moi, tout ce que je veux pas, c'est que ce soit deux Allemands qui gagnent, que l'histoire recommence et quand c'est encore les Allemands... qui élimine les Français en demi-finale.
Ouais, moi je parie quand même. Non, allez, je parie sur un Lyon-Leipzig en finale avec Lyon qui bétonne derrière pendant 90 minutes, qui obtient un penalty pour en sa faveur à la 91e et qui bat le Bayern sur penalty 0-1. Bon, c'est improbable. Mais bon, c'est du foot.
Mais la France en tout cas, et le PSG. Oh, pardon.
J'avoue que j'aimerais bien un petit Leipzig OL, mais je pense que ça va finir par un PSG Bayern et une victoire du Bayern.
C'est une belle affiche.
C'est clair.
Ça veut le faire.
Bon, pause musicale, Florent, avec Mélodie Gardot.
Mélodie Gardot, j'étais dans mes fiches, oui. Alors, elle est née le 2 février. C'est une chanteuse américaine, hein, belle chanteuse à lunettes. Elle est née le 2 février 1985 dans l'état du New Jersey, donc aux États-Unis. Hein, donc, ça, oui, c'est ça. Ces styles musicaux, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de jazz vocal, de folk, de fado. Je crois que c'est portugais comme musique, le fado.
Oui, tout à fait.
Fado portugais. Et de la bossa nova. Ça s'est inspiré d'artistes comme Duke Ellington, hein, un jazzman, hein, il y a très longtemps, quelques vingtaines d'années, trentaines d'années de ça. Et Janis Joplin, hein, qui fait partie accessoirement du club de 27. Et en sachant que Mélodie Gardot a repris une chanson de Radiohead aussi. Alors, Mélodie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a sorti 6 albums studio de 2005 à 2018. Et le morceau que je vous proposais, c'est Goodbye. En fait, je suis allé en voyage, j'en parlais tout à l'heure dans l'émission. C'est Goodbye c'est un double album live de qui s'intitule Live in Europe et voilà moi la musique à tout de suite et merci.
Good night was just a little word you learned. Somewhere somebody that you burned was not too happy with a lie. But love, you know you never cry. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show door. And you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong. And I know
you're just a victim of your circumstance. I never know in any real romance. And so we all say so long, goodbye, so long, goodbye. Say goodbye. Now, love, you know you never got it right. I don't know why you say goodnight. You only mean to say goodbye. You only mean to say goodbye. You only mean to say goodbye. You only need to say.
Mais c'est normal.
Merci Florent pour cette pause musicale.
Ah, tiens, Nico.
Hop là, voilà, c'est mieux. Merci Florent, Mélodie Gardot. Très beau morceau sorti en 2012. La suite de l'émission, c'est le Qui dit quoi. Jingle.
Allez-y, posez votre question, monsieur.
Qui c'est celui-là ?
Le Qui dit quoi ?
Non, monsieur, à quoi pensez-vous ?
Oui, c'est ça.
Alors, le qui dit quoi, les règles sont simples. Hein,
oui, déjà, un big up à Pierre Vassilou. Hein, pour une fois n'est pas coutume, un big up à Pierre Vassilou.
Donc, le qui dit quoi, les règles sont simples. Tu nous donnes une citation et on doit trouver qui cette citation.
Alors, je vais commencer. Nous devons vivre comme, tous ensemble comme des frères, sinon nous mourrons comme des idiots. Qui a dit ça ?
Quelqu'un encore vivant ?
Non. Il est né le 15 janvier 1929.
Mandela.
Non, à Atlanta, en Géorgie.
Luther King.
C'est ça. Ouais, c'était rapide. Alors, il a été assassiné à Memphis, dans le Tennessee, en 68. Et le 28 août 63, il a tenu un discours contre la pauvreté et pour le droit de vote pour les gens qui ont...
I have a dream.
I have a dream, ouais. Qu'on mettait de côté et dont on ne pouvait pas s'occuper, en fait... Il était pour la paix dans le monde et tout ça. Il était assassiné en 68, voilà, tragiquement. Voilà. Alors, la lecture est importante. Alors j'essaie de me souvenir. La lecture est importante. Si vous savez lire, le monde, le monde entier s'offre à vous. Qui a dit ça ?
Jacques Martin.
Non, non. Il est toujours vivant.
Nabila.
Il est 4 août 1961. Dans les îles de Hawaï.
Nabila.
1961.
C'est un Français ?
Non, un Américain. De père kényan. Kényan.
Obama.
Obama, ouais. Et d'une mère qui a des racines anglaises et irlandaises. Il est 44e président des États-Unis et il va présider de 2009 jusqu'à 2017. Donc voilà.
Ça fait un temps vert qui court tout le temps.
Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Barack Obama. Voilà. On va terminer par... Alors, si je vous dis ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais.
Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai déjà entendu cette phrase.
Gérard Depardieu.
Non.
Non, c'est pas un Karl Lagerfeld ou un couturier ou non ?
Alors, sculpteur, peintre, il a fait du cinéma muet, même.
C'est, j'ai l'air Dali, mais non.
C'est ça.
C'est Dali. Ouais.
Bon, il est né à Figueras et mourra aussi à Figueras, né le 11 mai 1904, donc c'est de la même ville, et mourra le 23 janvier 89. Donc il était un multi-ousso, il y a l'espagnol multifonction, ça fait un peu de fer. Et il est l'un des pionniers, l'un des précurseurs du surréalisme aussi en peinture, et, un des plus grands peintres du XXe siècle dernier, voilà. Ouais, j'ai fini, j'en ai fini.
Merci Florent, c'est déjà la fin de cette émission. Alors avant qu'on écoute le dernier morceau, tu voulais faire des remerciements.
Oui, j'aime. Big up, j'aime encore une fois. Un deuxième big up.
Quel j'aime aussi.
Le j'aime de Roubaix, qui se trouve près du parc des sports à Roubaix.
Il y a un nom, c'est la pose.
Situé la pose, ouais, la pose exactement. Parce qu'il y a plusieurs j'aime dans le coin. Il y en a un à Lille, un à Roubaix, un autre endroit. Et on était faire un voyage à Valenciennes. D'ailleurs, j'ai remercié au passage un gros big up à eux et aux animatrices qui sont, dont une est venue avec nous. On a déjà travaillé en train et on a beaucoup passé un bon moment, quoi. On a été dans des disquaires, on a été manger un morceau, un bon kebab. Enfin, un kebab seulement les frites, mais bon, c'était toujours ça. Pas dégueu, mais la viande était malheureusement pour moi très dure et un peu, c'est du plastique un peu, c'est bizarre, quoi.
Ça, c'est bizarre, tiens.
Mais bon, j'en fais confiance, que je reviendrai dans ce kebab la prochaine fois. Je peux faire confiance, je crois.
Comment d'autres choses, alors?
Oui, oui. Et donc, peut-être que des frites à ce moment-là, bon. En fait, au départ, on devait aller à Le Quesnoy, et figurez-vous que l'animatrice, elle nous disait on attend de la pluie à Le Quesnoy, on va faire de l'acrobranche, la tyrolienne, du pédalo, du canoë et kayak, et comme il n'y avait aucun endroit pour s'isoler, on a décidé d'aller à Valenciennes à la place en TER, donc en TER ville, pour remplacer le TER nature. Voilà.
Et donc, tu remercies donc le GEM de la Poste qui organise régulièrement des voyages.
Des journées. Donc les deux prochains, c'est fin août. Je participe pas au voyage, mais c'est à Calais, à Dunkerque. Voilà. Donc soyez nombreux et amusez-vous bien, en tout cas si vous y allez. Voilà, merci.
Merci à toi Florent, merci à Fred d'avoir participé, merci à vous aussi Christopher et Rachid. On va se quitter avec un morceau de Asian Dub Foundation, extrait du nouvel album qui sort à la rentrée. L'album s'appelle Access Denied. Voilà, le morceau c'est Stealing the Future et c'est une exclusivité des Entonnoirs.
Oui, j'espère.
Bonne semaine à tous, rendez-vous la semaine prochaine, même fréquence, ciao.
Allez,
ciao, bye, à la semaine prochaine.
Allez, à toutes. Yes or no answer. Be prepared, 'cause they're still in the future. They're still in the future. Stop it, the right from under our nose. They stole the future as if nobody knows. Stole the future while we looked the other way. Now we're heading for darker days. They stole the future, shouting louder than us. They stole the future, we forgot who to trust. They stole the future, they left us in the dust. It's a bust. Looking all of the dreamers, they're messing with true believers. When all out to deceive us, but sent to the king as Jesus. Self-deception, not attention, so many hits of dimension. Spread infection, misconception. B to the R to the E to the X to the I to the T. Why didn't you guess? S to the E to the A to the V was a contract. Here comes the mess. B to the R to the E to the X to the I to the T. No amnesty. S to the E to the A to the B. This fallacy is a travesty. Right from under our nose. They stole the future as though nobody knows. Stole the future while we looked the other way. Who's to blame? Go home in the book, 'cause everyone here is a foreigner. Black or brown conspirator, they divide the color. I hear still we're brother and sister, still in the fight together. Shoot and hope it still exists. You know we must resist like this. Hands up if you're the citizen of nowhere and you're not scared.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des agréables, parce qu'il donne plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et lui a plus fou, c'est ça, les agréables.